Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis que je suis en âge de m'intéresser à l'actualité, un pays sans cesse revient dans les cycles d'infos, tantôt présenté comme au bord de la rupture ou d'un basculement vers plus de démocratie, souvent pointé du doigt comme un élément perturbateur, une source de crainte pour le monde occidental. Ce pays, c'est l'Iran. L'Iran qui cette année célèbre, même si le mot est sans doute mal choisi, les 40 ans de la révolution islamique de 1979. Celle-là même qui a installé au pouvoir cet étrange mélange vu depuis chez nous de religieux et de politique. Et quand on remonte un peu le fil de l'attitude de la France vis-à-vis de cette révolution et de ceux qui l'ont menée, à commencer par l'ayatollah Khomeini, on est frappé par la grande naïveté avec laquelle nous regardions tout cela. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas su voir à l'époque? Et qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, nous échappe dans ce pays dont la culture nous épargne bien des aspects familières et qui partage avec nous des liens profonds? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour mener à bien cet ambitieux programme, il nous fallait un invité capable de balayer les 40 années qui nous séparent de 1979. Ça tombe bien, c'est exactement le domaine d'expertise de Manaj Shirali. Elle est sociologue, enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'histoire politique et religieuse de l'Iran, qui est son pays de naissance. J'ai commencé notre discussion en lui demandant si j'avais raison de trouver la position française naïve durant la révolution islamique.
Oui, absolument. D'autant plus que la France continue à regarder la République islamique d'une manière très naïve. Donc, on peut dire à juste titre qu'en 79, la position de la France vis-à-vis de Khomeini était une position assez naïve.
Est-ce qu'on peut peut-être raconter un peu justement quelle était cette position, quelle était l'attitude de la France vis-à-vis notamment de Khomeini, qui vivait donc en France depuis quelques années déjà? Petite précision, comme on nous a signalé ma bêtise, Khomeini n'était pas depuis plusieurs années en France et pour cause, il n'y est resté qu'une centaine de jours en tout. Mea culpa, j'ai vu bien trop large et retour à notre interview.
Les Français ont cru, pas que les Français d'ailleurs, beaucoup de gens à l'époque ont cru que Khomeini était un grand démocrate et qu'il allait libérer l'Iran des mains d'un grand bourreau, d'un grand dictateur et qu'il va apporter des libertés politiques et modernes en Iran. La modernité.
Est-ce que cette confusion, elle est liée au fait que Khomeini parle, lui, de république islamique
en
et qu'en fait, on ne met pas forcément, nous, les mêmes termes derrière ce mot de république dans son esprit,
oui,
à lui?
Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Khomeini était un grand génie politique. Il savait manipuler les gens, il savait présenter son discours le moment nécessaire d'une manière très opportune. Donc, il a bien caché son jeu, c'est-à-dire que la loi qui a complètement figé la constitution iranienne, celle de Velayat-e Faqih, qui divise les citoyens en deux catégories, par exemple les clercs et les gens normaux qui ont considéré comme incapables de prendre leurs décisions, des décisions concernant leur vie politique, leur vie privée, leur vie publique. Donc, ils doivent être sous tutelle d'un religieux. Ça s'appelle la clause de Velayat-e Faqih ou la suprématie totale du religieux sur l'individu. Sur les citoyens iraniens. Alors ça, c'était une loi qui a été complètement occultée. Vous voyez, c'est-à-dire c'était une thèse que Khomeini n'a pas du tout développée avant,
oui,
de prendre le pouvoir. Même les Iraniens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Mais une fois qu'il est venu au pouvoir, on a compris que quand même l'homme, il est tout sauf un démocrate. Et la seule conception de pouvoir qu'il avait, c'était gouverné par force d'une manière très autoritaire.
Est-ce qu'il y avait des signes quand même avant-coureurs de ce qui potentiellement pouvait se passer à partir de 79?
C'est vrai qu'il avait publié. Il a, oui. Il n'a pas, bon, je dis qu'il avait caché, il avait caché de son discours, mais il avait publié, oui, plusieurs livres là-dessus. Donc les gens qui savaient lire pouvaient parfaitement se référer à ces livres. Mais chose étonnante, et d'ailleurs ça c'est une caractéristique de l'histoire, normalement on ne voit pas très bien les choses sur le moment.
Oui.
Personne n'a lu son livre. Rares étaient des gens qui avaient consulté ses écrits, rares. Normalement, en fait, à l'époque, les gens n'écoutaient que son discours son discours oral.
Oui.
Et personne ne se référait à ses écrits. Il suffisait de regarder ce qu'il avait écrit pour savoir à qui on avait affaire. Mais bon, évidemment, on ne l'a pas fait. Et voilà le résultat.
À l'époque, pourtant, il exerce une certaine fascination sur des gens qui sont très lettrés, notamment des intellectuels français,
absolument,
notamment Jean-Paul Sartre et Michel Foucault.
Absolument. Pas que les Français, mais les intellectuels iraniens étaient vraiment subjugués par cet oui. homme courageux qui savait dire les choses, qui savait prononcer des discours des plus courageux d'une manière très éloquente. Tout le monde était subjugué par lui. Les Iraniens les plus lettrés de l'époque étaient vraiment fascinés par lui. Et ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault, qui ne savait pas lire le persan, qui ne savait pas vraiment distinguer les nuances dans sa parole, pense que c'est un grand homme politique qui va en fait prendre le destin des Iraniens en main. Ce n'est pas étonnant.
Est-ce que ça s'explique aussi, cette confusion, cette incompréhension, par notre très faible, et qui c'est toujours valable aujourd'hui, très faible compréhension, on va dire, de la complexité du monde culturel, religieux, islamique.
Absolument. Le monde musulman, j'ai l'impression que le monde musulman constitue toujours une énigme pour le français. Les Français, bon, déjà par leur tradition laïque, la chose religieuse leur échappe et à plus forte raison, l'islam leur échappe. Et on voit que quand même les positions que la France a prises depuis l'arrivée de la République islamique ne font pas partie des plus fines, si vous voulez, sur le plan politique.
Qu'est-ce qui reste de cette révolution islamique 40 ans après, aujourd'hui ?
Oui, c'est une très bonne question, en fait. Qu'est-ce qui reste de cette révolution ? C'est une révolution qui avait l'objectif d'apporter le bonheur aux Iraniens, d'apporter toutes les recettes pétrolières au pays, de ne pas gaspiller leurs richesses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est une très, très bonne question parce que nous sommes en face d'une société appauvrie, presque affamée. Ce soir, c'est le nouvel an iranien. Les gens n'ont même pas de quoi acheter la nourriture de la Eid ou de la fête. Et alors que le gaspillage est au sommet, un quart du budget de l'État est dans la poche d'une seule personne actuellement aux États-Unis, au dire des dirigeants de la République islamique, pas les groupes d'opposition. Pas plus tard que la semaine dernière, la République islamique a annoncé qu'une femme a pris un quart de budget de quelques 6 milliards de dollars et elle n'a pas l'intention de restituer cette somme au gouvernement iranien. Ça, c'est l'État qui l'a annoncé. Ça, c'est vraiment un exemple de ce qui se passe actuellement en Iran. Selon une estimation, 80% de la recette pétrolière ne rentre pas au pays. Et donc, c'est gaspillé et ça va dans la poche des individus, soit dans les guerres par procuration dans lesquelles l'Iran est appliqué, soit en Syrie, soit en Irak, soit au Yémen. Donc, vous voyez que 40 ans après, la situation de vie, la situation économique en Iran a complètement dégradé. Les Iraniens sont très mécontents. Et évidemment, ils regrettent. Vous voyez, quand la situation dégrade, quand les gens n'ont pas de quoi manger, ils regrettent le temps passé, ils regrettent l'époque royale, ils réclament le retour du fils de Shah. C'est ça, en fait, la situation d'aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on explique comment ça s'est mis en place au cours des années, des quatre décennies donc, qui se sont écoulées, cette déliquescence, on va dire, du pays ? Comment est-ce qu'il est devenu un État défaillant ?
Voilà encore une bonne question. On se demande aussi, et ça c'est un sujet qui demande beaucoup de débats, beaucoup de colloques. Je pense que la principale raison pour laquelle l'Iran est aujourd'hui dans cet état, c'est que dès le début, pour le clergé chiite qui a pris le pouvoir, qui est venu à la tête du pays, à la tête de la République islamique, l'intérêt national des Iraniens n'est pas rentré en ligne de compte. Leur but était d'élaborer l'islam, de propager l'islam partout dans le monde, de créer le monde musulman uni, indépendamment du clivage chiite-sunnite. Et c'est ça qui a fait que le pays, 40 ans après, le pays est en déliquescence, alors que le pouvoir des ayatollahs, il faut reconnaître, dans la région, est absolument affirmé. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans quatre capitales de la région. Ils ont quand même ils ont réussi à s'affirmer face aux Américains d'une manière quand même assez spectaculaire, alors que le pays est complètement détruit.
Politiquement parlant, qu'est-ce qui structure aujourd'hui l'Iran ? Où est-ce qu'il en est le pays aujourd'hui ?
Dans quel sens ?
En termes de vraiment d'organisation politique et de prise de décision.
Alors, le pays, dès le début de la République islamique, avait deux structures différentes. Une structure élective et une structure sélective. La structure sélective, dès le début, constituait 90% de pouvoir de décision. Et 10% de ce pouvoir était attribué au président de la République et aux organisations sélectives. Aujourd'hui, on voit que les 90% de pouvoir sélectif, ce pouvoir qui se réclame de la légitimité divine, le guide de la révolution qui dit que je suis représentant de Dieu, donc je
c'est
décide.
Ali Khamenei,
Ayatollah Ali Khamenei, il se dit le Vali Efari, ça veut dire le représentant de Dieu sur terre. Donc, il est au courant de la volonté de Dieu. Personne n'a le droit de remettre en cause sa décision parce qu'il est en relation directe avec Dieu, soi-disant. Alors donc, c'est le pouvoir sélectif, c'est lui qui décide pour tout. Et toute cette politique belliqueuse de la République islamique envers la communauté internationale vient de cette partie. Il y a aussi 10% de pouvoir électif, l'organisation présidentielle, le président de la République, le Parlement. Alors, ça c'est... Au début, il constituait 10% de pouvoir, mais aujourd'hui, on voit que la marge est en train de se réduire de plus en plus et que de moins en moins, le président a le droit de prononcer sa volonté. La preuve, il y a 10 jours, Bachar Assad, le président syrien, était en Iran. Le président de la République et son ministre des Affaires étrangères n'étaient pas présents. Alors, il n'était pas présent, il n'était pas invité au fait. C'était une relation, c'était une entrevue entre le guide de la révolution Ali Khamenei et M. Bachar Assad. Donc, vous voyez que le rôle du président de la République est encore moins important qu'il était il y a quelques années.
Oui, donc c'est ça. Si je comprends bien, le pouvoir iranien n'est pas là où on le croit. Et en plus, les personnes qui donc dirigent de fait l'Iran entretiennent l'illusion de l'existence d'un pouvoir démocratique, notamment en peut-être diffusant l'idée que les modérés ont accès au pouvoir. Parce que régulièrement, quand on suit ça d'assez loin comme moi en tant que journaliste, on a la sensation que un pas vers plus de démocratie se fait avec l'arrivée au pouvoir justement de personnes modérées comme Hassan Rouhani, qui est donc le président iranien actuel qu'on nous a présenté, vendu comme étant un modéré. Mais en réalité, les conservateurs sont toujours là et c'est eux qui dirigent le pays.
Oui, et d'ailleurs, les Occidentaux l'ont bien acheté. Il faut le dire, c'est-à-dire cette image semi-démocratique que l'Iran essaye de donner aux Occidentaux a été bien, en fait, acceptée par les Occidentaux, par ces derniers, sans en fait aller un petit peu plus loin pour savoir ce qui se passe dans le pays. C'est vrai que, vous savez, moi je dis toujours, les Orientaux ne sont pas idiots. C'est très facile pour eux de comprendre quels sont les principes en Occident, quels sont les principes importants, quelles sont les valeurs importantes pour les Occidentaux, et ils jouent avec. N'oublions pas que l'année dernière, exactement à la même époque, la presse française nous faisait passer Mohammed Ben Salman pour un grand modernisateur.
Petite parenthèse pour préciser, Mohammed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. On l'a effectivement beaucoup présenté dans la presse occidentale comme un réformateur, en partie du fait de sa volonté affichée de donner plus de droits aux femmes saoudiennes. De nombreuses voix se sont élevées par contre pour dénoncer une forme de duplicité chez Ben Salman, qui serait un dirigeant bien plus autoritaire et radical qui ne veut bien le montrer, notamment lors de la disparition l'an dernier du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné à Istanbul fin 2018, sur ordre, semble-t-il, du pouvoir saoudien. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Manaj Shirali.
La naïveté occidentale fait que quand ces gens-là viennent chez nous et ils commencent à parler avec un langage édulcoré en disant que nous voulons mettre en valeur nos femmes, tout de suite, on achète. La même chose en Iran, ça fait quand même des années que la distinction modéré-conservateur ne tient pas debout. Pourquoi ? Parce que les modérés sont encore plus corrompus que les conservateurs. Et lors des manifestations des Iraniens l'année dernière, en janvier, quand les Iraniens étaient dans la rue, les gens les plus durs face aux manifestants n'étaient pas les conservateurs. Il faut le dire, les modérés ont réagi d'une manière encore plus dur face aux gens qui contestaient, qui réclamaient leur salaire, parce que c'était des ouvriers qui n'étaient pas, par exemple, payés pendant 6 mois. Et je dis toujours, si en France, les ouvriers ou les fonctionnaires font la grève pour avoir une meilleure situation de vie, on est dans un pays, en Iran, on est dans un pays où les ouvriers font la grève pour avoir leur salaire qui n'a pas été payé pendant 6 mois. Alors, quand les gens sont sortis dans la rue et ont réclamé leurs droits fondamentaux, les gens qui ont résisté face eux, le groupe qui a résisté face eux, c'était le président de la République et son équipe, c'est-à-dire la partie sélective, la partie soi-disant modérée du régime. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce type de distinction naïve ne tient pas debout et ne raconte pas la réalité iranienne, plutôt ça raconte la naïveté occidentale.
Est-ce qu'il existe la possibilité, ou peut-être même, est-ce qu'il existe en Iran, une troisième voie, quelque part, entre ces modérés corrompus et ces conservateurs extrêmement difficiles, on l'a bien compris, est-ce qu'il y a une voie d'opposition possible, politiquement ?
En fait, déjà, il n'y a pas de voie. D'accord, il n'y a qu'une seule voie, c'est-à-dire que la République islamique était une idéocratie au début. On a dit à tort théocratie, mais ça n'a jamais été une théocratie. Autant que je sache, Dieu n'a jamais gouverné nulle part. Donc, on parle de théocratie au lieu de parler d'idéocratie, mais il faut parler d'idéocratie. Donc, la République islamique, à l'époque de Khomeini, était une idéocratie. C'était l'islam idéologique de Khomeini qui régnait. Mais à la suite, après la mort de Khomeini, avec l'arrivée de ses successeurs, on a vu quand même les nouvelles générations ont fait un basculement vers l'autre voie de gouvernance. C'est plutôt aujourd'hui ce qui se passe en Iran. C'est une bande d'hommes politiques qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, à leur intérêt personnel, et l'intérêt des Iraniens, l'intérêt du pays ne rentre pas en ligne de compte. C'est pourquoi je les qualifie comme des kleptocrates. Et j'estime qu'aujourd'hui, en fait, la République islamique est basculée de l'idéocratie vers la kleptocratie. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec cet appauvrissement rapide et massif des Iraniens. On voit à quel point les dirigeants de la République islamique sont en train de profiter de la situation, tout en sachant qu'ils n'ont pas un long avenir devant eux. Donc, ils veulent s'enrichir le plus rapidement possible parce qu'ils savent que, de toute façon, la situation
justement, si la situation n'est pas tenable, vers quoi elle peut déboucher potentiellement ? Quelles sont les options qui sont sur la table pour le peuple iranien ?
Il y a des gens qui parlent de changement. Ils disent que le changement a déjà eu lieu, c'est-à-dire il y a un véritable coup d'État caché à l'intérieur du régime. Et aujourd'hui, ce n'est plus ni le président de la République, ni même le guide de la révolution qui gouverne. Aujourd'hui, c'est le général Qassem Soleimani, le chef de l'armée des Pasdaran, qui est en train de prendre les décisions majeures dans ce pays. Et on voit, par exemple, la semaine dernière, quand Bachar al-Assad était là, la première personne qui est allée le voir, qui l'a pris dans ses bras, faisant des embrassades extrêmement chaleureuses, c'était le général Qassem Soleimani. Et il y a des observateurs très, très au fait de la situation iranienne à l'intérieur du pays qui estiment que le coup d'État a déjà eu lieu. Et là, maintenant, c'est l'armée qui est en train de gouverner et le guide de la révolution est devenu une marionnette dans la main des dirigeants de l'armée. Et donc, le régime a complètement basculé. Et la situation en ce moment est très ambiguë. Ça peut tourner dans beaucoup de choses. Ça peut, en fait, se transformer en des situations encore plus catastrophiques par rapport à la situation actuelle. Donc, on est tous vigilants, en train de regarder ce qui se passe, comment les choses s'évoluent, comment les choses vont se dérouler dans les jours à venir.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'une nouvelle fois, le peuple iranien va accélérer ce changement ?
Écoutez, depuis 2009, à plusieurs reprises, les Iraniens sont sortis dans les rues en essayant de faire un changement. Et à chaque fois, c'est l'armée qui a été déployée dans les rues des villes iraniennes. Et c'est l'armée elle-même qui a réprimé les manifestants. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, on voit qu'un peuple avec les mains vides, sans être armé, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire face à une armée qui est complètement équipée jusqu'aux dents et qui réprime sans hésitation? Et je ne pense pas du tout aujourd'hui que le pouvoir populaire pourrait être capable à faire quoi que ce soit face à une telle répression. La répression est tellement forte en Iran et les ayatollahs sont tellement décidés à réprimer, à rester en place que le pouvoir populaire ne peut rien faire. La situation n'est pas comparable avec l'époque de Shah parce que le Shah ne voulait pas tuer. Ça, c'est différent. On n'est pas en face des dirigeants politiques qui ont des scrupules en pensant que non, de toute façon, il ne faut pas verser le sang. Non, ils sont prêts. Et vous voyez ce qui se passe en Syrie. Moi, je pense que l'exemple syrien est éloquent. Est éloquent parce que on est quand même. Bachar Assad était largement conseillé par les généraux de l'armée iranienne. Et on dit que derrière du régime syrien était la main. Tout le monde le sait d'ailleurs. Donc les Iraniens savent qui a gardé Bachar Assad en place et ils savent ce qui les attend une fois qu'ils sortent complètement dans la rue. Et je peux vous dire que les conseillers de Bachar Assad sont bien en place pour appliquer leurs propres conseils en Iran. Donc pour répondre à votre question, je pense que, je le dis très souvent, je pense que nous sommes dans une région du monde où le peuple ne peut pas prendre en fait son destin en main, tellement les régimes en place sont sans scrupules et tellement les régimes en place sont capables à faire face à la volonté du peuple. Qu'est-ce que les gens peuvent faire dans ce genre de situation? C'est en fait normalement le sort des régimes politiques dépend des alliances qui se créent entre les différentes puissances régionales.
Justement,
ou mondiales.
À part la Syrie, qui sont les alliés de l'Iran aujourd'hui?
N'oublions pas, le grand allié, c'est M. Poutine. C'est M. Poutine qui manifeste un soutien pour l'instant extrêmement important envers les Iraniens parce que les dirigeants iraniens ont ouvert les portes du pays sur lui. Le mois d'août dernier, les dirigeants iraniens lui ont offert la mer Caspienne. Tous les droits de jouissance de la mer Caspienne ont été accordés aux Russes. Et ensuite, contrairement à la constitution iranienne qui ne permet pas la présence des forces politiques et des forces militaires étrangères dans le pays, la plupart des garnisons, la plupart des casernes iraniennes, là maintenant, sont exploitées par les Russes. Les grands aéroports militaires iraniens sont devenus les bases des avions russes. Donc, dans cette situation, quand les Russes ont la main mise sur le pays, évidemment, ils soutiennent les dirigeants actuels.
Et revoilà le spectre des vieilles oppositions entre Russie et États-Unis par pays interposés. À croire qu'on ne parviendra jamais à se défaire totalement de la sempiternelle guerre des blocs. Pas forcément le constat le plus réjouissant qui soit. Merci à Manash Shirali pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si par le plus grand des hasards vous nous écoutez via Apple Podcast, prenez donc quelques secondes pour nous laisser 5 belles étoiles. Ça ne vous coûtera rien, ça nous fera chaud au cœur. Abonnez-vous sinon, quelle que soit l'appli que vous utilisez. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.